Père, nous te remercions pour cette parole que tu nous as donnée, pour la vie pleine et joyeuse qui est possible à travers d'elle. Nous te remercions et nous te louons, car tu es un Dieu fidèle, même si nous ne le sommes pas, tu ne changes pas. Tu nous fais grâce et tu es rempli de compassion. Tu es long à la colère et riche en bonté. Je prie que tu m'aides à communiquer la richesse d'une vie centrée sur toi et la valeur d'une relation avec ton Fils. C'est en son nom que je prie. Amen. Alors, qu'est-ce qui est au centre de votre vie? Quel est votre plus grand désir, votre espérance? Il y a un moment dans l'évangile de Marc où Jésus il parle avec un homme riche. Il demande à l'homme de vendre toute cette possession, Et l'homme, il est parti triste. Et je me demande des fois pourquoi il l'a fait, pourquoi Jésus l'a fait. Et je crois que c'est pour montrer à cet homme l'idole de son cœur, ce qui était au centre de sa vie. Si Jésus, s'il parlait avec vous, quelle est la chose, les choses qu'il choisirait? On va revenir à cette question dans quelques moments. Quand on aborde un texte de la Bible, il est toujours nécessaire de bien comprendre le contexte, car sinon c'est sûr qu'on va le mal interpréter. Et le livre des Thessaloniciens a un contexte assez spécial, assez particulier, qu'on a vu dans le chapitre 17, du livre des Actes, et ce chapitre-là, 1 et 2, en Thessaloniciens. Donc, Thessalonique était la capitale d'une province romaine s'appelait la Macédoine. Sa population était énorme et la ville était un centre économique. Et on a vu dans Actes 17 que Paul, l'apôtre Paul, il est venu à Thessalonique avec Silas ou Sylvain et Timothée pour partager la bonne nouvelle. Et ils sont restés là-bas plusieurs semaines, même peut-être, on ne sait pas trop, des mois. Et le livre des Actes nous raconte qu'un grand nombre de juifs et de non-juifs sont devenus chrétiens à force de leur message. Mais cependant, il y avait un groupe de juifs qui était contre leur message, qui était altasémonique, qui était contre ce qu'ils disaient. Et alors Paul, Silas et Timothée ont dû fuir la ville. Mais un peu de temps après, quelques mois après, Paul, il se soucie tellement de ces nouveaux chrétiens qu'ils ont laissés là-bas, qu'il envoie Timothée pour les encourager. Et donc ensuite, Timothée, il partage un moment avec eux dans l'église et il revient vers Paul avec un rapport de comment ils allaient. Et, c'était des bonnes nouvelles. Ils allaient bien. Mais il y avait quelques membres qui sont morts depuis leur départ. Mais enfin, en gros, l'église allait bien. Et donc ça, c'est où on est dans l'histoire. Ça, c'est ce qui s'est déjà passé. Donc, on va commencer au début, le verset 1, lisons avec moi. De la part de Paul, Sylvain, Silas et Timothée, à l'église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et dans le Seigneur Jésus, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. J'imagine que cette lettre faire du bien à l'Église. J'imagine que l'Église était contente de la recevoir. En fait, on va voir tout au long du livre qu'il y avait toujours la persécution à Thessalonique. Alors, j'imagine que cette lettre de la personne qui a commencé l'Église a dû faire du bien. Plus que d'autres lettres dans le Nouveau Testament, on voit dans ce livre une affection très très forte entre Paul et une Église. Plus tard dans la lettre, Paul décrit sa relation avec l'Église comme la relation entre un père ou une mère et ses enfants. Ils étaient très proches. Il dit au chapitre 2, « Quant à nous, nous avons redoublé d'efforts pour vous revoir, car c'était notre désir. » Ils étaient très proches. Et j'imagine que ses amis ont reçu la lettre, que l'Église s'est réunie peut-être pour l'année, le soir, à la lumière d'un feu. Et la première chose qu'ils entendent de la part de Paul, Silas et Timothée, à l'Église des Thessaloniciens, qui est ton Dieu le Père et ton Seigneur Jésus-Christ. C'est intéressant que Paul ne dit pas qu'il est apôtre, parce qu'il le dit assez souvent dans les autres livres. Peut-être c'est parce qu'il n'a pas besoin d'affirmer son autorité avec eux. Il écrit à ses amis en qui il a confiance. Il leur dit, vous êtes une église basée, oui, à Thessalonique, mais vous habitez en Dieu. Vous êtes en Dieu. Ça, c'est sa première phrase. Et voilà un des privilèges d'être chrétien. Où qu'on habite dans le monde, en Chine, en Éthiopie, à Londres ou à Paris, Dieu est notre vraie maison. On fait partie de lui. On est en lui. Et il nous donne la grâce et la paix. Quelle intro! Je suis sûr que ça faisait du bien pour une église qui était en train de souffrir. Paul, il continue dans cette lettre à décrire comment cette église à Thessalonique est devenue un exemple pour la Macédoine, pour d'autres églises là-bas. Et je crois que si on voulait donner un titre à ce chapitre, on pourrait dire l'exemple des Thessaloniciens. L'exemple. Donc si j'avais un PowerPoint, ça serait l'exemple des Thessaloniciens. Donc verset 7 dit « Ainsi, vous êtes devenu un modèle, un exemple, pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Archaïe. » L'Archaïe, je ne sais pas comment dire. Paul, il dit à cette église qu'ils étaient un modèle. Ces gens, ils sont devenus un modèle pour d'autres églises. Et je veux qu'on se focalise ici. Comment est-ce que cette église est un modèle, est un exemple? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ces chrétiens? Quelles sont les caractéristiques importantes sur lesquelles Paul se focalise? Donc, je crois qu'il y a au moins quatre caractéristiques. Et donc voilà mes titres. Tourner, aimer, transmettre, attendre. Ces quatre caractéristiques englobent la foi chrétienne. Et on les voit dans ce passage. Donc déjà, un, tourner. Verset 9. Je sais qu'on va à la fin, mais c'est pas grave. Verset 9. De fait, on raconte à notre sujet quel accueil nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes tourné vers Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Vous vous êtes tourné vers Dieu en abandonnant les idoles. Donc, la première remarque que je veux faire est sur cette idée de tourner. sur le détour qu'ont fait les Thessaloniciens. Paul dit qu'ils se sont tournés vers Dieu en abandonnant les idoles. Déjà, qu'est-ce que c'est une idole? C'est pas un mot qu'on entend très souvent. Augustin, qui était un mec assez connu, il a dit que l'idolâtrie, c'est quand nous louons des choses que nous devrions utiliser, et nous utilisons des choses que nous devrions louer. Donc, nous louons des choses alors que nous devrions les utiliser, et nous utilisons des choses que nous devrions louer. Et c'est pas mal comme définition. L'idolâtrie, c'est quand nous louons des choses que nous devrions utiliser, et nous utilisons des choses que nous devrions louer. Et l'argent, c'est un bon exemple. On a déjà parlé de l'argent avec cet homme riche. En fait, l'histoire, c'est dans Marc, chapitre 10, si vous le trouvez. Pas mal, je ne sais pas si vous connaissez cet homme. Mais donc, il y avait cet homme riche, il est venu à Jésus. Et il a posé une question assez simple à Jésus, qui était, que dois-je faire pour hériter pour la vie éternelle? C'est une question, c'est une bonne question, c'est la question en fait. Et la réponse de Jésus, il lui dit, il te manque une chose, va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. C'est dur. Mais je crois là, ce qu'il fait là, ce que Jésus fait, il veut lui montrer son idole. Il veut lui montrer que c'est impossible, qu'il y a une chose dans lui qu'il adore. Il devrait utiliser l'argent, mais il l'adore. Et donc, l'homme, il part triste. Et l'exemple des Thessaloniciens, quel est leur modèle? Qu'est-ce qu'ils font? Ils se tournent vers Dieu. Ils oublient les idoles. C'est pas facile. Mais d'après leur exemple, il faut qu'on les abandonne. Il faut qu'on se tourne. C'est intéressant, le verset, il dit « Le Dieu vivant est vrai. » C'est intéressant. Peut-être il fait la comparaison entre les idoles et Dieu. Dieu, il est vivant. Les idoles, ils sont faites de la poussière. Les idoles ne méritent pas notre adoration. Ils ne sont pas dignes de notre louange. Mais Dieu, oui, il est digne. Et en fait, les idoles, ils n'arrivent pas à nous satisfaire. Ça, c'est notre chose. On y croit. On est aveugle, si on y croit, mais on y croit. On croit que si on a assez d'argent, ou de succès, ou du sexe, on sera content, on sera satisfait, mais on est aveugle. C'est pourquoi moi, je veux la nouvelle iPad. Je sais pas pourquoi, mais je le veux, quoi. Je pense que si je l'ai, je serai satisfait. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est aussi, c'est pourquoi je veux une copine, une femme. Sinon, je ne serai pas satisfait. Mensonge. Si Dieu, il peut nous satisfaire. Il est capable de nous satisfaire. Il faut qu'on tourne. Il faut qu'on se tourne vers lui. Et en fait, ce changement, c'est tellement important. Il faut qu'on le fasse maintenant. C'est très facile à dire, je vais le faire demain. Pas ce soir. Je vais la faire demain. Tournons-nous maintenant. Suivons leur exemple. Ok, 2. Aimer. Une fois que cette église, ces chrétiens se sont tournés vers Dieu, quelle était la caractéristique qui les définissait? Verset 3. Nous nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, devant notre Père. Ok, dans ce verset, on voit trois aspects de leur foi chrétienne, trois aspects de leur vie, la foi, l'amour et l'espérance. Et on les voit assez souvent dans la Bible, c'est un triolet qu'on voit assez souvent. Mais je veux se focaliser sur l'amour. C'est intéressant, n'est-ce pas? Devant Dieu le Père, pendant que Paul, Silas et Timothée priaient, ils se sont rappelés du travail de leur amour. Travail, amour. C'est pas souvent qu'on met ces deux mots ensemble. C'est plutôt sentiment, amour. Mais Paul dit qu'ils se rappellent devant Dieu le Père le travail de leur amour. L'Église à Thessalonique a souffert des afflictions sans nombre. Déjà, ils étaient persécutés, mais en plus, il y avait des juifs et des non-juifs dans la même église. Alors, beaucoup d'opportunités pour des désaccords, pour des disputes. Maintenant, si c'était moi, je chercherais une autre église, c'est plus facile. Ça, c'est ce qu'on fait ici. Mais eux, ils avaient une église à Thessalonique. C'était l'église de Thessalonica. Donc, il fallait travailler. Et Paul, il se souvient dans sa prière du travail de leur amour. Ils ont travaillé pour aimer des gens. J'habite en coloc avec des amis. Et moi, je suis assez introverti. C'est-à-dire qu'en rentrant du travail, je vais aller dans ma chambre avec une petite bière pour, je sais pas, écouter de la musique ou regarder une série seul. Et un de mes colocs, il est très extraverti. Il aime bien être avec des gens. En fait, ça le remplit d'énergie d'être avec des gens. Moi, ça me fatigue. C'est horrible. Mais lui, il est mon frère. Il faut que je travaille sur mon amour pour lui. Ça veut dire qu'il faut que je parle avec lui. Il faut que je l'aime. Il faut que je fasse un effort pour parler avec lui plus que, enfin, je sais pas, une fois par semaine. Avant, j'habitais avec un autre ami et on est toujours très proches, malgré qu'on a habité ensemble. Et une fois, sa mère est venue et elle a laissé des cookies et des brownies pour lui. Sympa. Et après une semaine, il ne les a même pas touchés, donc je les ai mangés. et j'avais faim et je me suis dit, c'est pas grave, je peux en acheter plus. Il ne l'a pas vu comme ça. donc on s'est discuté un peu. Mais enfin, des gens sont différents, on a des visions différentes des choses. Il faut qu'on travaille sur l'amour, c'est pas facile. C'est un travail. Mais si on est chrétien, on est frère et soeur. On fait partie de la même famille. Ok, 3. Transmettre. Le verset 8. En effet, non seulement la parole du Seigneur a retenti depuis chez vous en Macédoine et en Achaïe, mais c'est aussi partout que votre foi en Dieu s'est fait connaître, de sorte que nous n'avons pas besoin d'en parler. J'étais en Angleterre pour le mariage de mon meilleur ami il y a quelques semaines. Et pour les mariages anglicans en Angleterre, en fait, avant que la cérémonie commence, des cloches sonnent. Et ça fait pas une grande chose à Londres, parce qu'il y a, enfin, il y a autant de monde et de bruit. Mais ce mariage était dans un petit village anglais. Et en fait, si les cloches sonnent dans un petit village, tout le monde va savoir, tout le monde entend. Et ce mot retentit en grec est normalement utilisé pour parler des cloches. Et apparemment, ce passage est la seule fois dans le Nouveau Testament qu'il est utilisé dans ce contexte. La parole du Seigneur a retenti depuis chez eux en Macédoine, comme des cloches. Cette transformation qui a eu lieu dans la vie de cette église a été signalée dans toute la région. Ça ne tombe pas déjà. Tous ces gens qui se sont tournés vers Dieu, qui ont laissé leurs idoles, toute une communauté a changé. Et c'est pas étonnant que les gens ont détecté le changement, qu'ils ont commencé à en discuter. C'est sûrement par cette façon de témoigner que des gens deviennent chrétiens en voyant le changement dans la vie des autres. Ma soeur, elle a une amie, elle s'appelle Rebecca. Elle est devenue chrétienne à la fac il y a un an. Et dans le même mois, son copain, il est devenu chrétien aussi. Et donc, ils ont arrêté de coucher ensemble. Et lui, enfin, il a arrêté de rester chez eux quand il est venu de lui rendre visite. Et c'est assez choquant, c'est étonnant pour d'autres amis, pour les autres colocataires dans la maison. J'imagine, il y a vraiment un changement. Il y avait un autre homme riche déjà avec qui Jésus a parlé. Il s'appelait Zachée. Il était collecteur des impôts, il était un méchant. Mais quand il rencontre Jésus, sa vie change. C'est instant, c'est incroyable. Bam! Il tombe vers Jésus et sa vie change. En expérimentant la grâce de Jésus, l'Esprit Saint change son cœur. Il n'est plus jamais la même personne. Et j'imagine que des gens autour de lui parlaient de ce qui se passait, c'est sûr. À Thessalonique, toute une église se tourne vers Jésus, change immédiatement, et les gens en Macédoine ont entendu cette nouvelle. Ils en ont parlé. C'est normal. Au point qu'il y avait des personnes qui sont allées raconter l'histoire à Paul, qui a dit: Paul, est-ce que tu as entendu parler de ce qui se passe à Thessalonique? Apparemment, il y a des chrétiens là-bas, ils se tournent vers Jésus pour servir. C'est incroyable, ils sont différents. Tu as entendu parler de Thessalonique, Paul? Non, attends, tu étais là, n'est-ce pas? Ils t'ont accueilli. N'oublions pas que ça se voit quand on devient chrétien. C'est normal que les gens veuillent nous poser des questions. Il y a un changement. Soyons des cloches. Si on est chrétien ici, soyons des cloches. Au milieu d'une génération désespérée, dans cette génération qui poursuit l'argent, la vie, l'amour, la vie facile. Soyons différents. Ne cessons jamais à dire il y a quelque chose de meilleur. Il y a une meilleure vie. Il y a un meilleur chemin. 4. Attendre. Finalement, la dernière caractéristique dont je veux parler est la patience des Thessaloniciens. Ils attendaient. Le verset 9. De fait, on raconte à notre sujet quel accueil nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes tournés vers Dieu en abandonnant les idoles, au service de Dieu vivant et vrai, et pour attendre du ciel son Fils qu'il a ressuscité, Jésus, celui qui nous délivre de la colère à venir. Donc, l'Église est tournée vers Dieu et ils ont attendu son Fils. Et voilà un résumé de la vie chrétienne. On se détourne des idoles vers Jésus et on attend. C'est pas facile la tâche que j'ai ici d'essayer de vous convaincre de vivre pour la future. C'est pas facile. Parce que à chaque fois qu'on allume la télé, la radio, ou un GQ, ou Elle, le message qu'on entend est toujours le même. C'est le contraire de ce que la Bible dit ici. Le message qu'on entend, c'est « Vivons pour maintenant !» Ou plutôt « Vivons pour le week-end !» Ou « Vivons pour la retraite !» Et c'est normal si tu crois que ce monde est tout, c'est normal. Il faut être confortable. Il faut investir de l'argent pour qu'on puisse prendre la retraite tranquillement, facilement, sans problème. Il faut chercher le meilleur appart dans le 17e. Il faut avoir tout le plaisir sexuel possible. Si cette vie est tout ce qu'on a, il faut faire ces choses. Mais je veux dire, non. Cette vie est quelques secondes en comparaison avec l'éternité. Le plaisir qu'on nous offre ici, c'est un verre d'eau en comparaison avec l'océan de plaisir dans la maison de Dieu. On est aveugle si on vit pour ce monde. On est aveugle si on vit pour maintenant. Il faut qu'on lève nos yeux pour voir l'éternité. Si la Bible est vraie, Jésus revient. S'il est ressuscité, il va revenir. Alors ma question c'est, est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on attend avec impatience? Et pour être clair, je ne veux pas dire que c'est mal de passer des bons moments ici, que ce monde doit être une salle d'attente où on ne fait rien. Non. Au contraire, on est censé apprécier les bons dons de Dieu. On est censé vivre des vies pleines. Nous ne faisons pas chez nous ici. C'est temporaire. Attendons Jésus avec impatience. Donc, ces 4 verbes. Tourner, aimer, transmettre, attendre. Je vais prier pour finir. Notre Père, fais-nous voir ta gloire et la gloire de ton Fils pour qu'on vive pour la future. futur. Chaque jour que nous puissions voir ta bonté, ta grâce et ton amour vers nous, qu'on tourne vers toi, qu'on aime les uns les autres, qu'on transmette cette bonne nouvelle et qu'on attend Jésus. Amen. Amen.